Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. On vient d'écouter le début de La chasse est ouverte. Hein. C'est le ministère des Affaires populaires et c'est une chanson qui avait été écrite et enregistrée non pas pour ce président ni celui d'avant, mais celui encore d'avant, hein, puisque c'est date de Sarkozy. Et je crois que Laure Palin de l'ANAFE nous a rejoint en ligne. Allô Laure.
Allô Yves.
Oui, bonjour Laure, comment vas-tu?
Ça va bien, merci, et toi?
Ça va, ça va. Donc tu nous appelles pour nous parler et de la frontière italienne et aussi de la salle d'audience délocalisée.
Alors, principalement de la frontière franco-italienne et peut-être un rapide point sur la délocalisation, mais en quelques mots.
Ouais.
Du coup, par rapport à la frontière franco-italienne, Laure, ma collègue, était venue vous en parler un petit peu, vous parler de la mission ANAFE-CIMAD qui a été réalisée en mai.
Ouais.
Je vais faire un petit rappel rapide. Donc, l'ANAFE et la CIMAD sont partis en mission à la frontière franco-italienne du 15 au 20 mai. Pour ce qui concerne l'ANAFE, nous y étions un petit peu avant pour aller faire une visite de la zone d'attente de l'aéroport de Nice.
Ouais.
Du coup, cette mission, donc lors de cette mission, on a eu pas mal d'échanges, donc on a pu rencontrer différents acteurs locaux des deux côtés de la frontière.
Ouais.
Donc en ce qui concerne les institutions, on a pu rencontrer le président du tribunal administratif de Nice, le procureur de la République également. Côté italien, la police aux frontières italiennes nous a reçus également, ce qui n'a pas été le cas du côté français. Nous avons rencontré pas mal d'associations des deux côtés de la frontière, donc à la fois sur française, donc sur Nice et Menton, et puis après plus loin dans la vallée de la Roya. Mmh. On a pu rencontrer des associations italiennes du coup qui interviennent principalement à Ventimiglia.
Ouais.
Et on a pu rencontrer des personnes qui étaient des personnes exilées. Mm-hmm. Donc lors d'une maraude à Ventimiglia,
mm-hmm.
Lors de distribution de nourriture le soir en fait, et également après dans la vallée de la Roya, lorsque nous sommes allés voir les différents militants locaux. Ce qu'on a pu constater, alors on a fait plusieurs constats, ce sont à peu près les mêmes constats qui avaient été faits par les autres associations qui ont fait des missions ces derniers mois. Mais du coup, donc il n'y a pas de respect du droit d'asile à la frontière. Il n'y a pas non plus respect prise en charge en fait de la protection des mineurs isolés. Pour une grande partie ne sont pas pris en charge et ils sont refoulés directement à la frontière comme les demandeurs d'asile. Il n'y a pas non plus de respect des conditions du refus d'entrée. Donc en fait, il y a une procédure qui est celle du refus d'entrée pour les personnes qui arrivent à la frontière. Mais la mise en œuvre qui en est faite par l'administration et notamment par la police aux frontières ne respecte absolument pas les conditions de son refus d'entrée. Enfin, normalement, c'est un document qui tient en trois pages, avec sur la deuxième page les droits des personnes qui se voient refuser l'entrée sur le territoire. Et du coup, les personnes à Menton et aussi dans les autres lieux, les points de passage autorisés, où elles sont interceptées, du coup, ont uniquement la première page des refus d'entrée. Donc du coup, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas, qu'on leur notifie pas leurs droits.
Mmh.
Et du coup, il y a une violation du coup de l'accès aux droits pour ces personnes. Ce qu'on a fait aussi pas mal lors de notre mission, c'est qu'on a fait beaucoup d'observations, donc dans les gares, dans les trains, pour voir en fait quelles étaient les pratiques de la police aux frontières et dans quelles conditions se passaient les contrôles. Donc que ce soit dans les gares, mais aussi après dans les différents points de passage autorisés. Donc c'est-à-dire les points de passage autorisés sont différents points qui ont été définis dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières et de l'état d'urgence et qui en principe, ont pour vocation la lutte contre le terrorisme et qui sont souvent utilisés, enfin qui sont principalement utilisés pour, je cite, je mets des guillemets, la lutte contre l'immigration irrégulière.
Mmh.
Et donc on a fait pas mal d'observations et on a pu constater notamment beaucoup de ce qu'on appelle le contrôle au faciès. du coup, notamment dans les trains et dans ces points de passage. Donc voilà, ça fait partie des différents constats de la NAFE et de la CIMAD. Le plus gros point, et ça je pense qu'on vous en avait parlé déjà la dernière fois, c'est qu'il y a un lieu de détention, de rétention, de privation de liberté, en tout cas qui est arbitraire à Menton. Ça se trouve en fait au pont Saint-Louis, c'est en fait à la frontière dite haute, où il y a en fait un local de police. En fait, des deux côtés, c'est un petit pont, et des deux côtés du pont, il y a un local de police français, et de l'autre côté, un local de police italien. Ce sont des locaux qui sont détenus par la police aux frontières, et dans ce lieu-là, il y a un lieu de détention où les personnes, enfin, un lieu privatif de liberté, où les personnes, donc, qui se voient refuser l'entrée sur le territoire, sont conduites et peuvent être maintenues plusieurs heures, voire une nuit, voire... Certains nous ont dit qu'ils avaient été retenus pendant plus de 48 heures. Donc, ceci se fait sans cadre et sans respect des conditions de la dignité humaine. Donc, nous avons depuis cette mission travaillé sur trois axes. Du coup, le premier, c'est le contentieux dont on vous avait parlé la dernière fois, qui a été initié par l'ANAFE, la CIMAD, le GISTI, la DDE et le SAF. Donc on a contesté en fait le fait qu'il y ait une décision en fait du préfet des Alpes-Maritimes créant ce lieu de rétention de privation de liberté arbitraire. Et donc le tribunal administratif de Nice a le 8 juin rendu une ordonnance en demi-teinte, ce qui ne satisfaisait pas du tout les associations, parce qu'ils considéraient que pendant un délai de 4 heures, les personnes n'avaient pas besoin d'être informées de leurs droits, ils n'avaient pas besoin d'exercer leurs droits, et que du coup, ils devaient être remis aux autorités italiennes dans ce délai-là. Pour nous, méconnaître les conditions du refus, les conditions du refus d'entrée et l'exercice des droits qui y sont... accolé, mais également le droit d'asile et le principe de non-refoulement et la protection des mineurs isolés. Donc du coup, nous avons fait un appel de cette décision et nous avons une audience devant le Conseil d'État qui s'est tenue la semaine dernière, le mardi 27. Et donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que les arguments, donc nous les arguments c'était donc ce que j'ai évoqué globalement, et les arguments du ministère c'était que en fait il y a une frontière extérieure effectivement en ce qui concerne les refus d'entrée, mais qui ne s'applique pas pour les droits et donc par exemple pour la création de la zone d'attente. Pas que nos associations sont favorables à la création de lieux privatifs de liberté, loin de là. Vu qu'on est contre l'enfermement administratif des étrangers, mais en fait, étant donné que ce lieu existe, on demande à ce qu'à minima, il y ait que la législation qui s'applique en matière de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente s'applique sur ce lieu. Donc, il y a donc frontière extérieure pour le refus d'entrée, mais pas pour les droits. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de demandeur d'asile, selon le ministère, à la frontière franco-italienne, et que dans tous les cas, le règlement Dublin ne s'applique pas. Or, c'est méconnaître le règlement Dublin et aussi l'accord de Chambéry conclu entre la France et l'Italie qui notamment précise que le règlement Dublin s'applique. Et donc, du coup, s'il y a un règlement Dublin, enfin, qu'il y ait application du droit d'asile à la frontière ou du règlement Dublin, il n'appartient pas à la police aux frontières de prendre cette décision. C'est toute une procédure spécifique qui doit être mise en œuvre. Pour ce qui concerne les mineurs isolés étrangers, selon le ministère de l'Intérieur, les mineurs isolés ne sont pas privés de liberté en fait dans ce lieu à Menton. Que quand ils sont identifiés, ils sont pris en charge par la ZE. Mais au moment où nous avons eu la discussion du coup devant le Conseil d'État, nous savions de sources sûres que la veille, trois mineurs avaient été privés de liberté pendant toute la nuit et avaient été renvoyés en Italie. Voilà. Parce qu'au moment de l'audience devant le Conseil d'État, plus de 165 personnes avaient été privées de liberté dans la nuit du lundi au mardi dans ce lieu-là. Ont été remis aux autorités italiennes. Et en fait, dernier point, c'est que pour eux, les 4 heures donc, autorisées par le tribunal administratif de privation de liberté sans cadre sont suffisants et il n'est pas nécessaire du coup qu'il y ait une base légale. Donc pour nous, c'est absolument inentendable, hein, parce que à partir du moment où il y a une privation de liberté, peu importe le format qu'elle prend, il y a des droits, il y a un cadre qui sont légal, qui régit ces droits, la privation de liberté, et il y a des droits, peu importe dans quel cadre. Donc ça, c'est le premier acte. Donc on attend la décision du Conseil d'État qui devrait arriver incessamment, et donc on vous en fera part dès qu'on l'aura. Le deuxième axe, c'est le plaidoyer auprès des autorités nationales et internationales, parce que depuis notre tour de mission, nous sommes entretenus, donc Elana fait la CIMAD, ensemble, nous sommes entretenus avec beaucoup d'instances, donc le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'OFPRA, le Haut Commissariat pour les réfugiés, donc la HDR. Nous devons rencontrer la CNCDH prochainement, et nous avons...
CNCDH,
c'est Commission Nationale Consultative pour les Droits de l'Homme. Et nous avons envoyé un rapport au Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies qui entre dans une phase d'étude périodique, ça s'appelle l'examen périodique universel de la France, et en fait l'examen est en cours et il y aura des suites l'année prochaine. Du coup, nous leur avons envoyé un rapport où, dans lequel il était fait mention de ce qui se passe à la frontière franco-italienne. Et le dernier point, et j'en viens du coup à la mobilisation de lundi qui arrive, c'est que là où l'axe sur lequel nous travaillons, c'est l'information de la société civile. Bon, on a bien sûr renforcé nos liens avec les autres intervenants à la frontière franco-italienne, et on travaille dans le cadre d'un collectif un petit peu plus large sur des perspectives en fait et sur la situation. Mais pour ce qui concerne l'information de la société civile, donc bon, on met en œuvre différentes choses. Donc là, par exemple, comme aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec vous. Et aussi, on organise avec le CICP. Donc le CICP, c'est le Centre International de la Culture Populaire, donc c'est là où nous avons nos locaux, un apéro politique. Donc le CICP, brièvement, a mis en œuvre, a lancé en fait en novembre des apéros politiques qui ont pour objectif de faire le lien entre l'histoire des luttes hébergées par le CICP et les luttes actuelles. Donc c'est un temps de convivialité autour d'un verre où on va discuter à la fois de la mémoire des lieux, mais aussi faire les connexions avec la situation actuelle sur différentes thématiques. Le slogan des apéros politiques, c'est s'inspirer du passé, lutter au présent, construire un autre futur. Donc, étant donné que l'on rentre de mission et que la question des migrations est une des luttes soutenues depuis l'origine par le CICP, on a décidé d'organiser, donc le CICP, la NAFE et la CIMAD, un apéro politique sur la frontière franco-italienne. Donc les violations des droits à la frontière franco-italienne mais également sur le délit de solidarité, parce qu'effectivement c'est un des points, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un des points qui a beaucoup retenu notre attention lors de notre mission. Et donc cet apéro politique aura lieu lundi à partir de 19h, donc au CICP, c'est au 21 Terre rue Voltaire dans le 11e.
Voilà,
donc,
ne pas confondre la rue Voltaire avec le boulevard Voltaire. Hein.
Non.
La rue Voltaire donne dans le boulevard Voltaire, mais ça n'est pas. Oui, et donc il y a aussi cet aspect répression des militants ou des personnes qui donnent un coup de main, qui aident. Donc il y a plusieurs cas qui sont emblématiques, comme Cédric Héroux, mais c'est quelque chose qui est extrêmement violent.
Oui, c'est extrêmement violent. Il y a une violence institutionnelle à l'encontre de ces personnes. Et après, ça a aussi des répercussions dans la société civile, parce que plusieurs militants se sont vus menacés du fait de leur action en faveur des migrants, et ce qui est extrêmement alarmant, en fait.
Ouais.
À partir du moment où, même si on sait que ça arrive, mais là, on sait qu'à la frontière franco-italienne, bon, ce qui c'est pas uniquement le cas, la frontière franco-italienne, on sait aussi que ça se passe aussi à Calais, mais les militants sont soit poursuivis par la justice, du fait de l'aide à des personnes en population, enfin des personnes en danger, mais également certaines personnes de la société civile qui du coup commencent à menacer les militants.
Mmh.
Donc c'est très alarmant.
C'est très très alarmant.
Oui.
Et donc ça on pourrait faire en parler. Et donc j'invite tout le monde à venir lundi 10 juillet à 19h à l'apéro politique du CICP. Et il y a un autre point dont on voulait parler, mais ça, il ne nous reste plus que 2-3 minutes pour l'aborder. Oui. C'est la décentralisation des audiences dont on avait déjà parlé il y a 3 semaines avec Laure Blondel.
Oui.
Mais je crois qu'on a les premiers, comment on appelle ça, des tests, enfin les premières audiences ont déjà été...
Oui, alors en fait, il y a eu des audiences tests qui ont été mises en œuvre par le tribunal de grande instance de Bobigny. Du coup, 3 audiences étaient prévues.
Alors, peut-être préciser quelles sont ces audiences, hein, parce que c'est, je crois, c'est
l'audience du juge des libertés de la détention qui intervient au bout de 4 jours en zone d'attente et au bout de 12 jours pour voir si la personne va être libérée ou si le juge va prononcer la prolongation de son maintien. Donc du coup, c'est un projet qui date de 2012-2013, qui a été suspendu et qui est revenu au goût du jour là en novembre et qui doit être mis en œuvre en octobre. Donc l'ANAFE, mais également l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, les avocats du barreau de Bobigny, s'étaient prononcés, et à l'époque aussi certains parlementaires s'étaient prononcés contre cette délocalisation. Nous poursuivons, nous tous, la mobilisation, parce que nous sommes absolument contre, parce que ça, selon nous, ça porte atteinte au procès équitable, et ça fait une justice... où certains sont moins... Enfin, une différence entre certains entre les justiciables qui n'a pas lieu d'être. Et donc, il y a eu des audiences, de tests, il y en avait 3 de prévus, mais il n'y en a eu que 2 qui ont pu avoir lieu, parce que donc la première a eu lieu le 24 juin, la deuxième a eu lieu hier, donc le 7 juillet, le 4 juillet, pardon, et l'audience du 28 juin a été annulée parce qu'entre-temps, la zone d'attente de la ZAPI, donc la zone d'attente de Roissy, a été fermée. Oui, pour des questions de sécurité, on a beaucoup de mal à obtenir des informations sur ce point. Mais du coup, elle a été fermée plusieurs jours, et donc notamment lors des audiences. Donc, pour ce qui est des audiences, donc à l'heure actuelle, les 2 audiences qui ont eu lieu, pour nous, posent quand même des problèmes. Alors, en termes de d'indépendance apparente, mais en fait pour nous les audiences ont globalement un petit peu confirmé nos craintes pour l'instant. Mais du coup on pourra en reparler dans les prochaines semaines, parce que du coup on sait aussi que le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté sont saisis aussi de la question et s'intéressent aussi à la question. Du coup, on aura plus d'un... Enfin, nos associations restent très, très attentives à cette situation et on fera un retour plus détaillé sans doute sur les audiences tests, ou en tout cas en fait dès septembre et surtout dès octobre, dès la mise en œuvre, si finalement elle a toujours lieu, dans les prochaines semaines. Voilà.
Écoute, merci beaucoup Laure, et j'aurais juste une petite question. Le problème, c'est que ça va nous faire dépasser le temps, mais quand même je te la pose. Quand la zone d'attente est fermée, ils sont où les gens qui sont retenus en zone d'attente? Ils sont libérés et...
Alors, il y a donc quand ils ont fermé la ZAPI, il y avait 88 personnes. A priori, il y en a certaines ont été libérées, d'autres ont été renvoyées et d'autres ont été transférées à Orly.
OK. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laure. Et puis, donc, dès qu'il y a du nouveau, tu nous rappelles. Hein, et puis, on se dit donc à lundi.
Et à lundi.
Voilà.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il est temps maintenant de passer à notre agenda.